Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le vendredi 23 février 2024 et vous écoutez le débrief du jour 1 du Festival International des Jeux de Cannes réalisé par ProxyJeux. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Astien et je suis accompagné pour ce jour 1 de toute la team ProxyJeux présent sur le salon. Donc je vais commencer par Peter. Bonjour Peter.
Salut à tous.
Et ensuite à ma gauche encore, il y a BenoFX.
Salut la team.
Ensuite on retrouve Elodie.
Salut tout le monde.
Suivi tout près de Lana.
Salut.
Et on retrouve la grosse voix de Drew.
La grosse, pourquoi la grosse voix?
Bonjour tout le monde.
Et pour finir, on a bien sûr Cyrus.
Salut Astien, salut tout le monde.
Et ben voilà, première journée où on est tous là, c'est super. On arrive à se retrouver tous autour du micro. Et du coup, journée remplie d'interviews aujourd'hui. Et ça a commencé ce matin avec Lana et Drew. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos interviews?
Oui, on a eu la chance de recevoir ce matin Delphine Brenade, qui est chef de projet chez Libellude. Ensuite, on a reçu Lionel Desbarbieux. Lui nous a parlé de tout ce qui est événementiel chez Gigamic. Et ensuite, on a eu le plaisir de discuter avec Nathalie Ritzdorf, qui est co-fondatrice de Paladis Game, une nouvelle maison d'édition.
Et on a enchaîné cet après-midi avec deux interviews menées par Peter. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Ah, Peter, il n'était pas tout seul. Hein. Peter, il était d'abord accompagné avec BenoFX, ou BenoFX accompagné Peter, je ne sais pas. Nous avons reçu Régis Bonnecet d'Equinox. Donc Equinox, c'est la société qui édite Altered. Altered, le TCG qui est en ce moment
sur Kickstarter,
en campagne
participative. Il devrait sortir au mois d'août pour le grand public.
Voilà. Mais bon, tous les auditeurs de ProxyJeux savent déjà certainement toutes ces informations-là. Et ensuite, avec Astien, nous avons reçu Quentin Vinoc, qui est gérant de Ludotopia. Donc Ludotopia, c'est une société qui met en relation des créateurs de jeux, des éditeurs, et les fabricants de matériel qui se retrouvent dans nos boîtes de jeux. Donc c'est un maillon de la chaîne ludique qui est très peu connu. C'était très intéressant en tout cas, et vous pourrez bien entendu les écouter plus tard.
Eh ben, merci pour tous ces interviews, on a hâte de les écouter clairement. Et du coup, on va commencer par les impressions de la journée. Je vais commencer en donnant mes retours sur cette deuxième journée, sur ce jour 1 du festival, comme on aime l'appeler. Moi déjà pour commencer, je rentre par l'entrée presse et encore une fois aujourd'hui, nickel moi sur la sécu, ça s'est ultra bien passé. En gros, on avait la chance qu'ils fassent beau, mais ils nous ont un peu tous fait rentrer, puis mis de côté jusqu'à l'ouverture, à 9h pile. Et en fait, on est rentré en gros paquet d'un coup. Mais du coup, il n'y avait pas de queue, c'était super fluide. En tout cas, très plaisant. Dans le salon, je n'ai pas trouvé ça trop dur aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, il y avait beaucoup plus de monde qu'avant, hein, que le jour précédent. Mais c'était plutôt agréable. On circule encore facilement dans certaines allées, pas tant toutes, hein, bien sûr. Dès qu'on se rapproche des nommés de l'Asdor, ça bouge un peu plus.
Ouais, mais globalement, c'est vrai qu'on circule bien. Hein. Ça va.
Ouais. Faut dire que pour les entrées, ils ont fait un truc bien cette année. C'est qu'ils ont fait beaucoup plus de. Enfin, ils ont beaucoup plus séparé les entrées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de batch pro. Il y a les exposants, il y a les batch pro croisettes, les batch pro suqués. Et du coup, il y a des entrées distinctes pour ces trois batch pro. Donc ça fluidifie forcément un petit peu. Là où l'année dernière, il y avait une entrée pro en fait, où tout le monde se retrouvait. Et donc ça aide aussi à fluidifier les différentes entrées, plus l'entrée publique qui est un petit peu mieux organisée que avec des longs serpentins pour qu'il n'y ait pas un chaos de file d'attente interminable.
Et puis vers l'entrée publique, on a vu ce matin, on est arrivé assez tôt, hein, et ils ont installé une scène pour faire des spectacles toute la journée.
Oui.
Et dès le matin, dès la queue, en fait, il y avait des spectacles sur scène pour faire patienter les gens qui étaient
dehors.
Des
concerts et tout.
Ouais, ouais, on a trouvé ça très original et c'est mieux d'attendre là que en regardant ça que de regarder la mer. Ok, c'est sympa, mais c'est un peu long à bout d'un moment.
Après, côté entrée tout public, on n'a pas forcément trop d'infos de comment ça s'est passé. Je sais que ma compagne est sur le festival aussi et elle avait un coup de fil parce qu'on faisait un petit tournoi à l'Orcana ce matin. Mais il y avait quand même pas mal de monde, j'ai l'impression, quand elle est passée à 9h30, donc ouverture 10h pour le grand public. Elle me disait qu'il y avait facilement 1h30 d'attente d'annoncer à la billetterie. Donc c'était pas mal, quoi. Donc une demi-heure avant l'ouverture, une heure et demie d'attente, c'est pas dégueulasse.
Ça veut dire aussi que le festival du coup rencontre un certain succès.
Ouais, c'est
et,
sûr.
Et pourtant, ça se voit pas tant dans les allées, quoi. Et je pense qu'on est dans la même config que l'année dernière là, avec cette histoire de jauge de sécurité qui a dû se réveiller. Je pense à un moment, il devait y avoir des trucs qui étaient pas clairs avant, à mon avis. Et ils ont dû découvrir des trucs. Et du coup, maintenant, en fait, ça devient raisonnable, quoi.
Par contre, sur les files d'attente, on peut noter aussi un truc. C'est que hier soir, pour la cérémonie de l'As d'Or, alors ils ont voulu faire un truc cool, c'est que les gens fassent la queue dehors pour monter par le tapis rouge.
Oui, mais excellent. Mais
sauf que hier soir, il a plu des cornes. Donc les gens ont attendu sous une trombe d'eau pour rentrer dans la cérémonie. Alors voilà.
Marcher sur un tapis détrempé, c'est pas de bol. Ouais.
C'est pas de bol pour eux parce que c'est pas tombé le bon jour, la bonne année. Mais voilà, le fait de vouloir. Déjà, la queue est plus agréable dehors s'il pleut pas. Et puis le fait de monter par les marches, par le tapis rouge, c'est sympa quand même. Quoi.
Et en plus de ça, ils avaient prévu un écran extérieur pour rediffuser l'intérieur. Oui. Mais sous la flotte, je pense qu'il y avait personne. Alors nous, on n'a pas vu, on était dedans. Mais... Et surtout. Eh ben, il y avait encore de la place dans l'amphithéâtre.
Ouais.
Et c'était un peu surprenant. Et nous, on a des amis qui sont sur Cannes, qui sont pas venus parce qu'ils avaient peur de pas avoir de place, parce qu'il fallait ressortir. Il y avait une queue qui était assez impressionnante.
Ouais, sous la flotte, quoi.
Et sous la flotte. Donc, ils se sont dit, jamais on rentre. Donc, on n'y va pas. Et au final, il y avait encore des rangs libres. Bon, alors, sur le haut, je dis pas qu'on était au pied de la scène, mais il y avait encore de quoi s'asseoir largement à l'intérieur.
Ouais. Puis d'ailleurs, du coup, le fléchage était vraiment pas clair. Il y en avait pas, en fait, de fléchage. En fait, on savait pas qu'il fallait aller faire la queue dehors. Non, on a fait comme d'habitude.
On s'est présenté à l'ancienne entrée et on nous a dit, en fait, non, il faut faire le tour, il faut aller dehors et passer par les marches du palais de festival, le tapis rouge, tout ça.
Ah, je plains le pauvre gardien qui était là sur cette porte-là. Il a dû le répéter au moins 2000 fois, quoi.
Ah, ceux qui ont pas pu rentrer, qui ont attendu une demi-heure, trois quarts d'heure sous des trompes d'eau, je pense que. La discussion avec la personne qui a dit non, stop, on arrête, devait être difficile quand même.
Et justement, cette cérémonie de l'As d'Or, là, on y était tous, hein, il me semble. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah non, il manquait Peter.
Non, moi j'étais dans un salon, confortablement installé dans un canapé, avec la cérémonie de l'As d'Or
quand même.
Sur la télé, grâce à YouTube.
Et voilà. Il a mieux vu que nous.
Et la bière était meilleure. Ah pardon, vous n'avez pas eu de bière pendant que vous regardiez le festival, désolé.
Ça va foirer.
Non, mais on a vu des feux d'artifice.
Ah oui, les feux de Bengale.
Je pense que dans la salle, on a vu des choses que vous n'avez pas vues. On a ressenti les choses peut-être un peu différemment. Il y a eu pas mal d'émotions. Il y a eu une standing ovation qui était quand même exceptionnelle pour Mathieu Despneaux et Cocktail Games. Il y a eu aussi des petits sketchs qu'on n'a pas toujours compris quand on était dans la salle. Je ne sais pas ce que ça a pu donner quand vous étiez devant l'écran. Pour l'annonce de Trio, quand ils se sont mis à trois pour ouvrir l'enveloppe, juste avant, il y a eu une simulation de malaise ou d'endormissement. On n'a pas très bien vu. Et nous, on a vraiment cru.
Moi aussi, je me demandais ce qui se passait.
Ouais, on a vraiment cru.
La question s'est inquiétée pour elle. On dit, mais personne ne fait rien. Elle est en train de s'évanouir sur voilà. scène.
Et on n'est pas les seuls. Hein. J'en ai parlé à beaucoup de gens dans la salle et tout le monde s'est posé cette question-là. Ouais.
Donc, on n'a pas vu les mêmes choses, pas ressenti les mêmes choses.
Ouais, moi, j'ai été particulièrement émue par l'auteur de La Familia. Qui n'arrivait pas à venir au micro, enfin, et c'était très très beau ça.
Bah, il pleurait.
Oui,
en fait,
oui,
hein.
oui. Mais on l'a ressenti même tout en haut des gradins et c'était vraiment beau quoi. Bah, moi j'ai versé mes petites larmichettes plusieurs fois pendant la cérémonie.
Ouais, c'était
du coup,
émouvant,
c'était une bonne
cérémonie
pour moi. Quand je pleure, c'est que c'est bien.
Ah, puis le clou du spectacle qui, à mon avis, a fait s'arracher les cheveux de toute la sécurité du Palais des Festivals, enfin en tout cas dans la salle, c'est le drone qui était présent dans la salle, qui est quand même pas si grande que ça, quoi. Okay, et un drone, ça peut être dangereux si c'est mal géré, mal piloté. Moi, j'ai eu peur pour vous, j'avoue.
C'est gentil. Ouais, et puis quand même, Mathieu Despneaux et Cocktail Game récompensés. Voilà, ça a été la standing ovation et complètement naturelle en plus dans la salle. Enfin, moi, je me suis levé par exemple.
Ah toute la salle s'est levée, hein, clairement. Ça a duré, 5 minutes de standing ovation. C'était vraiment cool. Pour eux, en tout cas, on sentait l'émotion de leur côté.
Ouais, surtout qu'il s'est fait vanner avant sur le fait qu'il ait perdu 9 fois, etc. Donc ça a accentué encore le côté
c'est clair,
bonne nouvelle de la chose, quoi.
Oui, justement, le présentateur cette année, c'était un chroniqueur de France,
Daniel
de France
Culture.
Daniel Morin.
Morin, voilà, merci. J'avais plus son nom.
France Inter.
C'est très bien d'ailleurs. Il y avait de la plume.
Et voilà, c'était très bien fait. Il rebondissait, il savait un peu voilà, rebondir sur les petits sketchs et les blagues plus ou moins réussies du coup de qu'il y avait autour, c'était super, c'était vraiment prenant quoi.
Enfin, il y a quand même eu le moment gênant quand Marie Giordana est montée sur scène et qu'il a fait un bruit un peu...
Waouh, un peu
ouais.
Style.
Ouais. Ouais, c'est... Donc certes, il y a une plume, mais il y a ce moment-là quand même, on s'en serait bien passé. Quoi.
Oui, comme qui ne dit rien qu'on sent, moi je dis que j'ai pas aimé justement cette présentation et cette personne, enfin les interventions et son discours. J'ai trouvé que des fois c'était vraiment déplacé, un peu malaisant. Et voilà, l'humour ne permet pas tout. Voilà, moi j'ai pas aimé, mais bon, après chacun ses goûts. Hein.
On peut saluer quand même le nez de Mad qui avait dit dès Noël que triorait l'As d'Or. Et qui a dit aussi. Oui, on l'espérait tous, mais elle l'a dit publiquement, elle s'était engagée, donc bravo. Et puis qui avait aussi mis une pièce sur Faraway.
C'est vrai.
Donc Mad, mets-toi au tiercé, c'est le moment.
Ouais, Faraway, on était quand même beaucoup, je pense, à avoir mis une pièce dessus sur la catégorie initiée. Je pense qu'il n'y avait pas tant de surprises que ça.
Bah, Katine de boxe, je pense qu'il y avait ballotage quand même entre les deux.
Ouais, moi je le voyais pas du tout. Pour. J'aime beaucoup, hein, mais c'est quand même très, très spécial. Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de mon entourage, et joueurs avertis ou non, qui n'ont pas du tout accroché. Quoi.
Ouais, bon après, de toute façon, ils étaient tous. Enfin, ils étaient nominés tous les jeux dont on
parle. Oui, non, mais c'est des bons jeux, hein, bien sûr. Ouais.
Enfin, la plus grosse surprise à mon sens c'est la Familia, parce que effectivement c'est vrai qu'on se dit bah c'est cool, ils l'ont sélectionné, après ça reste un jeu 4 joueurs, tu te dis bah c'était complètement l'outsider quoi.
Oui, moi j'avais mis plusieurs pièces sur Darwin's Journey depuis très longtemps, depuis septembre que je l'avais testé, hein, j'avais testé la version KS Premium là, et bah, j'étais déçu que ce soit pas lui qui gagne l'As d'Or, mais après effectivement très surpris pour la Familia qui ne se joue que dans une configuration qui est difficile à avoir, à savoir 4 joueurs effectivement, mais aussi 4 joueurs qui acceptent de faire une partie longue,
ouais, ouais.
Très longue, ouais. Ça c'est quand même...
Bah, c'est cool du coup, moi, voilà. Moi je trouve ça cool.
Et ça fait un coup double pour Super Meeple qui avait eu donc la récompense avec Ark Nova l'année dernière et là, qui vrai. Enchaîne. Donc Super Meeple et Feuerland, hein, parce que c'est aussi deux jeux Feuerland. Hein. Ouais.
Et pour parler un peu du jeu enfant, donc mon puzzle aventure qui a reçu le prix, il y a Antonin Bocara qui s'est permis une petite pique bien placée sur la place des auteurs dans la rédaction des jeux narratifs.
La répartition des bénéfices et des fonds.
C'était bien, bien envoyé de sa part à son propre éditeur qui était juste derrière lui. Hein, voilà.
Ben en fait, alors, c'est là que j'ai trouvé que c'était pas clair. Je suis désolé parce que du coup, on sait pas trop. On sait pas si c'est destiné à effectivement son éditeur, si c'est des remarques parce que genre ça s'est bien passé avec son éditeur et ça se passe mal avec d'autres. En fait, on sait pas.
J'ai pas tout le background de cette histoire. J'ai appris un peu.
Continuer à parler de ça. Donc, je pense qu'ils ont initié peut-être des négociations différentes de d'habitude là-dessus.
Ouais. Bah, en gros, j'ai pas tout le background de ce qui s'est passé, mais j'ai compris qu'il y avait la Sage et d'autres acteurs du monde du jeu qui ont dû intervenir pour échanger sur justement la répartition financière sur mon puzzle aventure.
Ah, sur ce jeu-là.
Donc sur ce jeu-là. Ouais. Après, j'ai pas tout le background. Il est sûrement peut-être documenté ou des choses comme ça, mais voilà, il faudrait peut-être se renseigner un peu là-dessus.
Parce que pareil, Romaric Gallonier, qui était le co-auteur, il a été hyper distant dans la.
Oui.
Oui.
Et surtout, les auteurs n'étaient pas assis avec l'éditeur, etc. Ils sont venus, ils étaient sur le côté de la salle, ils sont venus un peu de leur côté. Ouais. Ils sont partis
ça, après,
de leur côté.
On sait pas trop. Mais voilà, la façon dont il est arrivé sur scène, je sais pas si c'est passé du coup sur YouTube, mais c'était bizarre.
Ouais, un petit peu,
ouais voilà, ça, pour c'était pour les ragots. Cérémonie, oui.
Moi, j'ai encore une petite réaction sur l'organisation de la journée. Okay. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau phénomène qui est en train de se mettre en place, c'est les files d'attente pour jouer. Alors, je trouve ça forcément plus mal que plutôt que d'attendre au bord d'une table, on fasse une file d'attente. Alors, il y a typiquement ça pour Star Wars Unlimited, pour Altered. Mais sauf que, chers éditeurs, s'il vous plaît, matérialisez la file d'attente. Parce que sinon, en fait, on ne sait pas. Vous dites qu'il y a une file d'attente, mais il n'y en a pas. Il n'y a rien qui la matérialise. Donc, moi, je veux bien, j'ai aucun souci. Ça me va très bien de faire la queue dans une file d'attente et de savoir clairement où est ma place. Mais il faut que ce soit bien défini, quoi.
Peut-être que pour Star Wars, ça pourrait être mieux défini parce que leur stand, en fait, c'est toute cette zone un peu à l'écart. Après, pour les autres éditeurs, c'est peut-être plus compliqué parce que, en fait, les files d'attente se font dans les couloirs. Et du coup, on,
ah ouais,
ils,
dans ce cas-là,
ils n'ont pas forcément le droit d'avoir ces espaces à décerner à leur file d'attente.
Et ben dans ce cas-là, soit tu fais de la place dans ton stand pour faire une file d'attente. Si tu veux faire une file d'attente, soit t'en fais pas.
La place, c'est de l'argent.
Voilà. Ben voilà.
Non, mais c'est vrai. Enfin,
faut choisir.
Je vois ce que tu veux dire, mais après, tous les ans, à partir du vendredi quand même, on attend derrière des gens qui sont en train de jouer sur des tables. C'est un peu le jeu du salon aussi. On a toujours ce côté-là. Moi, les stands que j'ai fait aujourd'hui, on m'a toujours dit, attendez à cette table-là, c'est ceux qui sont le plus avancés dans leur partie. Ouh, et donc, on est un peu derrière les gens à attendre comme des imbéciles, à leur mettre un peu la pression. Mais on l'a subi aussi en retour quand on est
ouais,
sur la table.
Bah voilà, c'est le jeu, moi ça me gêne pas. Mais en revanche, tu vois, cet effet file d'attente, bah, en fait, du coup, t'as des gens qui sont là pour gérer les tables, aider les gens, expliquer des règles, répondre à des points, machin. Et en même temps, ils doivent gérer des files d'attente. Donc, du coup, en fait, ils sont en train de faire deux trucs en même temps. Et ils font rien correctement, ni la file d'attente, ni quand toi t'as une question, en fait ils sont en train de faire gérer la file d'attente, de faire je sais pas quoi. Donc pour l'instant ça me paraît mal organisé cette affaire. Voilà. Maintenant ça peut être très bien organisé, mais il faut s'en donner les moyens, c'est tout.
Moi c'est ce qui m'avait étonné quand je suis venu à Essen. C'est vrai qu'on retrouve pas du tout ce système là en France, mais chez des gros éditeurs à Essen. T'as une file d'attente pour rentrer sur le centre de l'éditeur. Tu t'assois à une table quand elle est libre et tu joues à des jeux. Enfin, c'est pas une table, un jeu et tu dois attendre pour un jeu spécifique à table. C'est tu rentres sur le centre de l'éditeur, t'as une table et tu dis à l'animateur à quel jeu de l'éditeur tu veux jouer. Et du coup, voilà. Tu fais la queue pour une table, pas pour un jeu. Là, c'est vrai qu'on fait, on attend pour un jeu et il n'y a pas, comme le dit Cyrus, de files qui sont définies ou de files d'attente bien claires. Donc, bon. C'est pas trop où attendre, quoi.
Et ben voilà pour les retours de la journée et de la cérémonie de l'As d'Or. Je vous propose quand même de faire un petit tour des jeux qu'on a pu tester aujourd'hui, des retours positifs comme négatifs qu'on a envie de faire. Et on va commencer par Cyrus. De quoi tu vas nous parler ?
C'est moi, c'est Now, c'est à mon tour.
Ouais, c'est Now.
Et ben on va parler de Now justement, un jeu qui est sorti donc chez Randolph et Scorpion Masqué. Ben, je crois que c'est une coédition, non ? Bon, de toute façon maintenant on sait plus trop qui est qui. Donc c'est un jeu. Alors, qu'est-ce que c'est comme genre de jeu, hein? Vous qui avez joué avec moi l'année dernière, c'est quoi comme genre de jeu? C'est un jeu dans lequel on va devoir essayer de collecter des cartes. Il y a des cartes avec des valeurs. Ça fait penser un petit peu à Mind Up sur le principe. Voilà, il y a des cartes qu'on va essayer de choper. Elles ont des valeurs faciales. Pour obtenir justement la carte, il va falloir se rapprocher le plus possible de cette valeur faciale avec les cartes qu'on a dans notre main. Donc qui elles aussi ont des valeurs faciales. Chaque carte est unique, blablabla, enfin à peu près, voilà. Et le principe, c'est qu'en fait, simultanément, on a chacun un paquet de cartes dans notre main, mais on voit que une carte de ce paquet. En gros, c'est comme si on allait dépiler les cartes. Hein. Et à un moment, si on juge que la carte qu'on voit devant nous, elle nous convient, on va dire now. Donc ça veut dire qu'on est prêt. On masque sa main et puis on attend que tout le monde ait fini. Et voilà. Sauf que. Le dernier, celui qui n'a pas encore dit non, il est en gros, il a le coup près, c'est-à-dire que il peut, soit il est obligé de dire non maintenant, et donc il s'arrête, soit il va pouvoir éventuellement changer la carte qu'il voit devant lui, et puis ça va être un peu random quoi, la carte qu'il a en dessous. Et le principe, c'est que avec la carte qu'on voit du coup devant nous, chacun, on va regarder qui est le plus proche, mais en étant quand même inférieur à la valeur qui est au milieu de la table. Et donc voilà, c'est le plus proche qui remporte la carte. Les cartes, elles ont deux valeurs. Elles ont une valeur en rouge, une valeur en bleu. Et à la fin, on va cumuler les points rouges, les points bleus. Et en fait, on va soustraire. Ça va nous donner notre score. Donc, il faut essayer de faire le plus gros écart possible. En gros, si je suis parti sur le rouge, il faut que j'essaie de faire des rouges. Si je suis parti sur le bleu, il faut que j'essaie de faire des bleus. Voilà. Bon. Au final, ça nous a pas donné une sensation de dingue. Ça nous a paru globalement assez aléatoire, pas très palpitant. Ça provoque pas chez nous... ni des sensations inédites, ni des choses très intéressantes. Je pense que vous en avez pensé de l'autre côté, Lana Drew.
Oui, cette notion, on parlait à la fin, on essayait de le rapprocher d'autres jeux, d'autres sensations. On a parlé du 6 qui prend. On essayait comme ça de faire une mini-programmation par rapport à ce qu'il y a sur la table pour essayer d'être proche. Mais à la différence que là, on va chercher à récupérer des cartes. Là, dans le 6 qui prend, on n'en veut pas, au contraire, mais... on était 4, ça se joue jusqu'à 8. Je ne sais pas s'il y a un meilleur sentiment quand on est plus.
Il joue sur le côté chaotique, ça l'est, clairement. Mais en effet, en termes de sensations, ça n'apporte pas grand-chose.
Ouais, la vraie tension, on va dire, la vraie question, c'est est-ce que je dépile le paquet de cartes que j'ai en main pour aller chercher la valeur qui colle le mieux et récupérer la carte comme mieux. Et quand j'ai complètement dépilé mon paquet de cartes, je vais arrêter de jouer, quoi. Donc je vais jouer qu'avec la dernière carte qui me reste. Alors il y a moyen de resetter une fois dans la partie, de reprendre son deck, mais voilà, c'est est-ce que je creuse mon deck et que j'essaye de gagner des cartes, ou est-ce que bah, je suis un peu économe, et du coup bah, si moi je suis économe, mes voisins ne le sont peut-être pas, et c'est peut-être eux qui vont être en défaut à un moment. Donc voilà, il y a ça, mais vu qu'on ne voit pas les cartes des autres, on ne sait pas combien ils en ont passé, enfin, c'est très compliqué d'estimer quoi.
En fait, tu vois, en y réfléchissant, j'ai l'impression que c'est une espèce de mash-up entre un mind-up où effectivement c'est ce qui prend mais un peu à l'envers, et un Ligretto. Sauf qu'en fait, c'est ni un bon c'est ce qui prend, ni un bon Ligretto. Quoi. Donc il vaut mieux jouer à l'un ou à l'autre, mais surtout pas cette espèce de fusion bizarre. Bon, voilà. C'était Now, c'est donc un jeu de Silvano Sorrentino. C'est illustré par Fanny Solnier et c'est édité effectivement chez Randolph et Scorpion Masqué. Et t'as dit de 2 à 8 ou bah, au moins 3, il faut être au moins 3. Hein.
Oui, oui, oui.
Ouais, c'est 3, 3 à 8, pardon.
Et ben moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Inkit de Kevin Gauvin et Romain Clément chez Banquise Éditions. Inkit, c'est un jeu qui me faisait de l'œil un peu avant le festival. Sur la table, on va retrouver 4 tampons, chacun d'une couleur. On va retrouver un rectangle jaune, un carré bleu, un rond rouge et un triangle vert. Et dans Inkit, un peu à l'image de Imagine, justement, on va essayer de faire deviner des choses à un autre joueur. Donc on va avoir un joueur, c'est un jeu coopératif, hein, pardon, j'ai oublié de le préciser. On va avoir un joueur maître du jeu et les autres vont avoir une petite carte avec un dessin à devoir faire avec leur tampon. Donc par exemple un bonhomme de neige, mais ça peut être aussi des expressions, ça peut être des interactions ou des personnages connus. Par exemple, je sais pas, les trois petits cochons, ça va être se réveiller, se lever, courir. Voilà, on va avoir des choses à devoir réaliser avec ces tampons.
Et wow, là, je t'avoue que moi je fais des gros yeux. Comment tu vas faire deviner des trucs comme ça avec des tampons?
Attends, j'ai pas fini parce que à chaque manche, en commençant par la première manche, tu vas devoir utiliser un certain nombre de tampons. À la première manche, tu dois tamponner avec 5 tampons. Donc tu peux tamponner 5 fois avec le même, mais tu as que 5 tampons possibles. La deuxième manche, que 4, puis 3, puis 2, puis 1. Et tu dois faire deviner ton mot au maître du jeu. Bien entendu, quand tu vas faire ce tampon sur cette petite feuille, tu vas tout mettre après devant le maître du jeu. Tu vas prendre toutes les cartes mots, tu vas les mélanger avec un piège à l'intérieur et tu vas les donner au maître du jeu. Il doit faire une association. Il doit lier le dessin à un mot. Donc déjà, il y a quand même des guides. Ouais, le mot est devant le maître du jeu, il le voit, il a les dessins, même si ce n'est pas forcément très clair. Il peut arriver à savoir que deux ronds avec deux bras qui partent sur les côtés, c'est un bonhomme de neige et ce n'est pas, courir. Quoi. Voilà. Donc déjà, il y a ce petit truc-là, mais... Le jeu est assez facile au début parce que on se retrouve avec 5 tampons. En fait, on peut aller vite pour résumer un bonhomme de neige ou d'autres choses comme ça en tamponnant avec 5 tampons. Mais dès qu'on commence à tomber à 3 tampons, 2 tampons, c'est pas si facile. Mais le jeu, pour moi, a vraiment fonctionné parce que t'as un apprentissage, t'as une prise en main qui se fait avec la première partie qui est un peu difficile et puis t'enlèves de la facilité. Tu mets quelque chose de beaucoup plus difficile à essayer de faire et tu vas dans le plus simple, dans vraiment essayer d'être le plus clair possible et le plus concis en mettant les tampons de côté, en ne faisant pas un cercle complet mais en faisant un petit bout de cercle. Ouais. T'as le droit d'essayer de jouer avec voilà, comment tu appuies sur les tampons pour essayer de faire des choses. Et du coup, tu vas trouver quelque chose quand même. Tu y arrives. Non, tu n'as pas le droit de dessiner. Drew me mime le fait que tu dessines avec ton tampon. Tu n'as pas le droit de dessiner. Tu as juste vraiment le droit d'appuyer, mais comme tu veux avec ton tampon. Et du coup, tu as vraiment un truc qui se fait. Et pour moi, ça fonctionne vraiment. J'ai trouvé ça okay, ouais. Mignon. J'ai trouvé ça bien. C'est pas facile. Clairement, on a perdu. Hein, même pour du familial. Mais c'est rapide. Ça dure. Voilà, on a 4-5 mois à faire deviner selon le nombre qu'on est autour de la table. Et t'en enchaînes une deuxième, t'as envie d'essayer de tous les faire jusqu'avec un tampon. Et j'ai joué du coup avec ma famille de ce côté-là, et mon neveu a réussi à faire avec 0 tampon. Il a fait deviner son mot. C'est possible. On a le droit de faire 0 tampon.
On n'a pas le droit de grimacer, voyons, de faire des gestes.
Non, vraiment, vraiment. C'est un bon joueur, il essaie pas de tricher, et je t'assure qu'avec 0 tampon, il a fait deviner son mot. Voilà,
après,
donc,
si c'était fantôme, c'est pas trop compliqué.
Voilà, mais c'est ça en fait, ça fonctionne. Si c'est fantôme, bah, tu dis voilà, c'était fait. Et quand tu te retrouves avec les mots en face de toi, bah, le maître du jeu comprend. Quoi.
Ouais, ouais, c'est ça que j'avais pas forcément tilté au début. Effectivement, en fait, tu as plusieurs propositions. Donc, ouais, c'est ça. Parmi ces propositions.
Ça permet de faciliter quand même l'approche parce que quand tu te retrouves avec ces fiches et juste trois tampons posés dessus, tu peux galérer, effectivement. Donc, pour refaire la petite fiche, c'est Ink It de Kevin Gauvin et Romain Clément, édité chez Banquise Édition.
Et donc, on va continuer avec les petits jeux. Hein. Bon, évidemment, c'est tout le contraire avec ce jeu qui prend toute la place d'une table, donc qui s'appelle Wonderlands War, donc un jeu dans la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est un jeu de Ben Eisner, Ian Moss et Tim Eisner, illustré par Manny Tremblay et Matt Paquette. Et nous y avons joué sur le stand du localisateur de ce jeu qui est Lucky Duck Games. Voilà. Donc c'est un jeu compétitif. Nous y avons joué à 4 avec Astien, Lana et Drew. Je me souviens plus jusqu'à combien on peut y jouer. Peut-être 4 c'est le maximum. 5, ouais. 5 le maximum. Ok. Donc c'est un jeu asymétrique. Hein. Chaque joueur incarne un personnage tiré d'Alice au Pays des Merveilles avec des pouvoirs particuliers, un pouvoir permanent puis d'autres pouvoirs qui se débloquent au fur et à mesure de la partie, complètement asymétrique, une partie où le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin après 3 rounds de jeu. Donc on a fait plutôt une partie découverte, c'est un jeu qui est plutôt long a priori, probablement 2 heures hein, pour faire une partie complète, donc nous on a fait le premier round, voilà. Chaque round a 2 phases. Première phase qu'ils appellent la phase de thé, où on va plutôt récupérer des ressources. On peut récupérer aussi quelques malus sous la forme d'éclats qui font des points négatifs de points de victoire à la fin de partie. On récupère des bonus et on récupère surtout des jetons. Des jetons qu'on va mettre dans son sac personnel, puisque c'est un jeu qui comprend une mécanique, une grosse mécanique même, de backbuilding. Donc on démarre avec un certain nombre de jetons, et puis on va essayer de mettre des jetons plus forts, et surtout des jetons qui vont pouvoir se combiner entre eux. Et quand on va arriver à la phase suivante, qui est la phase de baston, hein, phase de combat, phase de guerre, je crois qu'elle s'appelle même dans le jeu. C'est à ce moment-là où on va piocher des jetons dans son sac. Donc on va s'affronter entre joueurs sur 6 lieux différents qu'il y a sur le plateau. Et ben ces jetons, ils ont des forces. Et il y a une mécanique de stop ou encore, c'est-à-dire que il y a des jetons qui sont des jetons négatifs en fait, et tant qu'on pioche pas suffisamment de jetons négatifs, ben on reste dans la course et jusqu'à avoir encore un certain nombre de meeples, enfin avoir au moins un meeple encore sur le lieu, et il y a des jetons qui sont dans notre sac qui nous font défausser des meeples qu'on a sur son lieu. Et donc à chaque fois qu'on va piocher un jeton, bah faut qu'on se demande si on continue ou si on s'arrête. Si on continue, bah on va avoir plus de force et on risque de battre les autres et de sortir vainqueur de ce combat. Si on continue et qu'on a plus de meeple sur son lieu, eh bien c'est ce qu'on appelle un échouage, où là on a 0 point, voilà. Et si on abandonne, c'est-à-dire qu'on s'arrête avant la fin, on peut avoir une partie des points. Voilà. Et surtout, derrière, les jetons qu'on a utilisés pour combattre, on va pouvoir forger. Si on a la possibilité, enfin, si on a tiré des jetons forge ou qu'on est sur une case, enfin, on a atteint un score de combat qui nous permet de forger. Et c'est cette forge va nous permettre d'améliorer certaines de nos compétences. Donc, dans une sorte d'arbre de technologie qu'il y a sur la droite de notre plateau personnel. Et qui est individuel à chaque, enfin associé à chaque personnage que l'on a choisi, donc toujours avec cette notion d'asymétrique. Voilà, donc nous on n'a pas pu explorer tout le jeu, surtout qu'il y a une grosse rejouabilité puisque les jetons qui sont disponibles pour chaque partie, il y en a 6, il y a 6 personnages qui vont fournir de jetons, ces personnages ont recto verso, et puis il y a 2 cartes différentes pour le même personnage, bref il y a 4 pouvoirs différents pour un même personnage, donc ça fait beaucoup de possibilités, plus les plateaux, le temps de découvrir tous les plateaux joueurs, ça fait pas mal de rejouabilité aussi. Il y a des cartes merveilles aussi qu'on va pouvoir piocher dans la première phase de T, donc parfois c'est des compagnons qui vont nous aider pour la phase de combat, ou ça peut être d'autres bonus plus directs par rapport à nos ressources dont on a besoin. Voilà, donc on n'a évidemment pas exploré tout le paquet de cartes merveilles qui devait avoir bien 40 cartes. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à explorer dans ce jeu. C'est, je pense, difficile pour un nouveau joueur d'intégrer une table où il y a déjà des fins connaisseurs. Il va y avoir un gros gap de stratégie entre les deux. On risque de se faire rouler dessus parce que le temps d'apprécier vraiment le jeu, ça va être compliqué. Sinon, voilà, c'est à retester hein, pour moi, parce que là, un round sur ce genre de jeu vraiment assez velu, c'est un petit peu dur pour se faire un avis complet. Voilà, donc c'est en précommande, ça sort en avril, je crois.
Oui, là, ils sont en train de livrer les Kickstarter, parce que c'est un projet qui sort à la base, ils sont en cours de livraison.
Voilà.
Et en fait, oui, ça demande à rejouer, parce que dans la partie qu'on a faite, on met des ouvriers sur des lieux et après on va, entre guillemets, combattre. Mais en fait, on combat pas vraiment. On va monter. On s'affronte pas en fait. Faut être le dernier à rester et il faut monter en force. C'est tout. Voilà. Et ça, on n'avait pas compris au début vraiment ce point-là.
Oui, c'est vraiment un combat de stop ou encore en fait. C'est au premier qui, enfin au dernier qui va rester, qui remportera sûrement le combat en fait, parce que les autres vont abandonner, voyant qu'ils mèneront pas la barque.
Et je suis pas éliminé par mon adversaire, c'est moi qui m'élimine tout seul.
Je sais pas si Lana, t'avais quelque chose à ajouter sur ce jeu, ou sinon...
C'est un jeu qui demande pas mal d'investissement pour découvrir les combos qui peuvent être faits. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment des choses à construire dedans. Après, c'est un jeu d'affrontement, très peu pour moi. Néanmoins, la mécanique de backbuilding, bon, c'est quelque chose que j'apprécie moi particulièrement. Et là, de construire ce qu'on veut faire et de découvrir sur chaque personnage ce qu'il apporte et ses petites spécificités, c'est toujours sympa.
Bien, je refais l'affiche signalétique pour conclure sur ce jeu. Donc, un jeu de Ben Eisner, Ian Moss et Tim Eisner. Deux Eisner dans les auteurs, d'ailleurs. Probablement un lien de parenté, mais bon, je m'avance peut-être un peu. Illustré par Manny Tremblay et Matt Paquette et localisé par Lucky Duck Games.
Eh ben merci Peter, on va passer à Beno FX qui va nous parler de Bomb Buster.
Ouais, du coup j'ai pu aller tester Bomb Buster chez Cocktail Games. Donc Bomb Buster, c'est un jeu qui sortira que à l'automne 2024, mais qui m'a bien plu. En fait, c'est un jeu coopératif qui va se jouer en campagne, enfin il y a plusieurs missions. Il y a 66 missions dans la boîte, je crois. Donc, il y a un petit côté legacy parce que, au fur et à mesure des missions, on va ouvrir des boîtes et on va avoir des nouveaux personnages, enfin des nouvelles missions, etc. Donc, c'est pas un legacy au sens où on ne détruit pas de matos, voilà, on peut rejouer après. Mais il y a un côté découverte un peu au fur et à mesure de notre progression dans le jeu. Donc, il y a 66 missions dans la boîte. Nous, on a fait une mission d'initiation qui est pas dans la boîte, c'est une mission en plus pour découvrir le jeu. Et donc, c'est un jeu coopératif dont l'objectif est de désamorcer une bombe. Ça ressemble à un pitch qu'on a dans d'autres jeux, mais là, c'est assez différent. Et c'est marrant que ce soit chez Cocktail Games parce qu'il y a une petite vibe trio quand même. En fait, chaque joueur, ça se joue de 2 à 4 personnes. 2 à 5. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs auquel on est. Ces tuiles sont numérotées de 1 à 12. Et il y a 4 exemplaires de chaque tuile. Ces tuiles représentent des fils qu'il faut couper. Donc chacun a ses tuiles devant lui sur un petit repose-tuile. Pour que les autres ne voient pas les tuiles de la personne, et on va les ranger de manière croissante. La tuile la plus faible à gauche, la tuile la plus grande à droite, et on va les classer. Donc ça, c'est les fils à couper. Parmi ces tuiles, il va y avoir, sur la mission d'initiation en tout cas, un fil rouge qui va avoir une valeur de 8,5, donc qui va être placé entre les 8 et les 9 chez la personne qui l'aura. Mais il n'y en a qu'un, celui-là, il n'y a qu'un exemplaire, pas 4, qu'il ne faudra absolument pas couper. À partir de là, chacun son tour, les joueurs vont devoir aller désigner chez leurs camarades une tuile en disant « Je pense que cette tuile A, là, est un 1. » Si c'est bon, la personne chez qui on a pointé la tuile va la révéler, c'est bien un 1, et la personne qui a fait l'annonce va aussi pouvoir défausser un 1. Et donc, il va falloir couper les 4 fils de chacun des numéros sans couper le fil rouge. Donc, il y a le petit feeling un peu trio parce qu'au début on va commencer aux extrémités parce qu'on n'a pas, au début on a très peu d'infos. Je crois qu'au début de la partie chacun pointe une de ses tuiles en disant ça c'est un 5 ou ça c'est un 7. On a le droit de pointer une tuile en disant ce que c'est, mais pas les autres. Et donc on va forcément commencer un peu aux extrémités en disant bah, on va commencer les 1, les 12 parce que c'est le plus probable. Et comme ça on va aller de fil en aiguille, on va essayer de se rapprocher des fils dans la mission d'initiation 8 et 9 où là ça va être beaucoup plus délicat parce que si on pointe le fil qui est le 8,5 en disant ça c'est un... Même, peu importe le chiffre qu'on annonce, mais si on pointe le fil rouge, c'est perdu. Et donc, pour parer ça un petit peu, il va y avoir pas mal de petits pouvoirs. On a chacun un personnage avec un pouvoir. Pour la mission d'initiation, on a tous le même pouvoir. Et il y a des petits objets aussi qu'on va pouvoir débloquer à partir du moment où on aura coupé un certain nombre de fils d'une certaine valeur. Et donc, c'est assez. Moi, j'ai trouvé ça assez malin, c'est intéressant. C'est pas forcément facile, mais en même temps, avec la déduction, avec ce qui est déjà tombé, avec les écarts qu'il peut y avoir entre les tuiles révélées de différentes personnes, au fur et à mesure, ça va s'éclaircir. Et puis à la fin, on va essayer d'utiliser les informations qu'on a, les petits pouvoirs pour minimiser le risque et trouver retourner toutes les tuiles sans retourner le fil rouge. Bien entendu, si on a les quatre fils d'une seule valeur, ça peut arriver. Là, on peut les révéler tout de suite. Et pareil, s'il y a déjà deux fils d'une valeur qui ont été révélés et qu'on a les deux restants, on n'est pas obligé de pointer chez quelqu'un, on peut s'auto-désamorcer, entre guillemets. Et donc, ça va donner de l'information aussi comme ça. Et donc, voilà, c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Je n'ai vu qu'une partie, puisqu'il y a la campagne, il y a les différents pouvoirs. Les fils sont pas toujours, le fil rouge n'est pas toujours à 8,5. Il peut y avoir plusieurs fils rouges. Plus ça va monter en difficulté, plus les fils vont être sur des valeurs un peu aux extrêmes, donc moins centrales. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen de renouveler un peu l'expérience de jeu et le casse-tête. On a joué à 4, c'était très bien à 4. J'ai des collègues qui ont joué à 2 où c'était aussi intéressant à 2. En fait, à 2, après, on a moins le droit à l'erreur. Comme chacun a plus de tuiles, tout le monde a plus d'informations globalement. Et du coup, en fait, en fonction du nombre de joueurs, on va avoir le droit à un certain nombre d'erreurs, à pointer un certain nombre de fils qui ne soient pas la bonne valeur. Tant que ce n'est pas la bombe, ça n'explose pas tout de suite, mais ça, on n'a qu'un certain nombre de chances pour désamorcer la bombe. Voilà, c'est Bomb Buster. C'est un jeu de Hisashi Hayashi, illustré par Dom 2D, pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans chez Cocktail Games.
Eh ben, merci beaucoup, un jeu à aller tester donc. Et on va passer maintenant à Elodie. Elodie qui va nous parler de Solstice.
Donc, oui, Solstice, c'est un jeu de Bruno Catala, Corentin Lebras chez Lumberjack, illustré par Gorobei. C'est un jeu à 2 à partir de 8 ans. Donc dans ce jeu, on va devoir créer notre paysage. On a 3 tuiles en main. Et on va devoir poser une tuile de sa main qui va nous permettre d'en récupérer une de la rivière. Une qui aurait soit la même valeur, soit la même couleur que la tuile qu'on vient de poser. Et une fois qu'on a... Donc on récupère une tuile, on a celle qu'on a posée. Et avec ces 2 tuiles, on va commencer à composer un paysage. Les tuiles, elles sont uniques. Donc le paysage qu'on va composer va être en creux par rapport au paysage de notre adversaire. Si je suis claire, mais comme il y a une seule montagne à créer, donc nous on va créer une partie de la montagne, notre adversaire va créer l'autre partie. Donc on a un côté d'Anafuda, je crois, une des inspirations, merci Cyrus, de ce jeu, qui est une des inspirations souvent reconnues par Catala, hein, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Et il y a, moi j'ai trouvé ça plutôt agréable, déjà très doux, très chill. À la fois, il faut quand même vraiment regarder ce que fait l'autre, ce que j'ai pas fait du tout. Je pense qu'une deuxième partie s'impose pour regarder ce que fera mon adversaire la prochaine fois. Et puis on a ce qui est aussi très catalesque, dirons-nous. Une fois qu'on arrive à faire des motifs, on va pouvoir récupérer des petits pouvoirs qui vont venir faire des effets et scorer à la fin ou... Donc à la fin, on va scorer en fonction de la plus grande étendue de terrain qu'on a faite. On a aussi parce que par moment, on ne peut pas récupérer de tuiles. Donc là, on a moyen de récupérer des arcs-en-ciel qui vont venir faire des sortes de jokers, qui sont vraiment pratiques pour relier des parcelles entre elles, parce que c'est seulement notre plus grande parcelle qui va scorer. Donc des fois, on a des petits bouts un peu partout sur notre montagne. Et donc, il faut essayer de relier au maximum pour scorer, pour faire des points. Donc oui, un jeu vraiment agréable. Le boulot de Gorobei sur l'illustration est très chouette aussi, qui donne vraiment cette impression de balade en montagne, de ce côté doux, agréable, et à la fois c'est malin, parce que vraiment, ça reste quand même un jeu dans l'adversité, dans le sens où dans un jeu d'opposition, il faut vraiment, vraiment faire gaffe à ce que fait l'autre. Quoi. C'est pas chacun fait dans son coin, vu qu'il y a une seule tuile de chaque... que les tuiles sont uniques. Et le matériel, donc on a ça aussi, c'est à saluer, une toute petite boîte. Et certes, les plaquettes des petits pouvoirs, là, c'est des petites plaquettes en bois qui ont un côté un peu domino de notre enfance. Et enfin ouais, il y a un côté Madeleine de Proust quand on en touchant le matériel, en manipulant le matériel, qui est vraiment vraiment agréable. Je tenais à saluer le travail du coup de Lumberjack, sur ce jeu. Donc récap du jeu Solstice de Bruno Catala, Corentin Lebras chez Lumberjack, illustré par Gorobei, un jeu à deux pour 8 ans et plus et des parties de 15 minutes.
Après cette petite balade en montagne, on va écouter Lana qui va nous parler du jeu Pick It.
Pick It, pas parce que c'est un jeu qui pique, juste parce que c'est un jeu où on va essayer d'attraper des cartes. C'est un jeu de Corentin Brand, c'est son premier jeu, un jeune auteur. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, plutôt familial, hein, il l'annonce à partir de 8 ans et c'est des parties d'une vingtaine de minutes. Ça va être très simple en effet. On a 2 dés à lancer, 2 dés 6, tout classique. On va ensuite pouvoir jouer des effets de cartes qu'on a dans sa main et récupérer une ou plusieurs cartes suivant la valeur des dés qu'on aura. Il y a peu d'interactions, on peut juste voler quelques cartes chez les autres. Ah, on vole quelques cartes chez les autres, sinon c'est des effets plutôt classiques. On va relancer les dés, on peut changer une valeur pour essayer d'attraper ce qu'on veut. C'est sympa, c'est familial. J'ai pas trouvé de grande innovation dedans. Néanmoins, remarque sur un beau travail d'édition. Il y a un dépile-cartes pour récupérer les cartes, qui est en matière recyclée, et une piste de dés au fond de la boîte, qui est bien pratique puisqu'on n'arrête pas de lancer les dés. Bon, par contre, les bons gros dés en plastique, c'est dommage.
C'était la grosse fausse note, hein, parce qu'effectivement, quand j'ai regardé le support des cartes, je me suis dit, tiens, c'est en quelle matière, toi, parce que j'ai bien vu que c'était pas du plastique. C'est un espèce de truc, je sais pas ce que c'est. Ouais,
un thermoformage carton. En fait,
Carton. Puis je suis, mais il y a des gros dés en plastoc. Alors que ça n'existe pas, les dés en bois, quoi.
Vraiment. Plus, c'est des dés à coin carré. Les dés qu'on n'aime pas, qui roulent. Pas top.
Ça va moins bien.
Moi, j'ai trouvé ça marrant. Vraiment public ado, je pense qu'il y a moyen de se marrer. Bon, c'est quand même bien chafouiné autour de la table. Moi, j'aime bien les jeux dans lesquels on peut, on peut essayer d'influencer les autres. Non, mais vas-y, prends la carte chez lui, machin. Voilà, ça, c'est plutôt rigolo. Mais je suis d'accord, je te rejoins sur le fait que c'est pas très innovant. Et ça apporte pas grand-chose de milieu ludique. Voilà
un bon OK game. On passe un beau moment. Pick It, un jeu de Corentin Brand. Pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, chez Repoprod.
Très bien. Après cette demi-teinte, on va avoir Drew qui va nous parler de Littoral. Est-ce que ça t'a plus que Pick It ?
Oui, effectivement, je vais vous amener au bord de mer pour voyager un petit peu. Surtout que ce bord de mer est canadien, puisque nous sommes retournés chez Randolph. Hein, on a joué, je vous ai parlé un petit peu de Now il y a quelques instants. Et là, c'est le jeu de l'année aussi chez Randolph, c'est Littoral. Donc Littoral, on nous l'a pitché. Quelqu'un qu'on connaît nous a dit « Allez, c'est Littoral, c'est comme le Captain Flip, vous retournez des jetons et vous allez voir, c'est cool. » Donc effectivement, le matériel, le pitch est un peu plus fort, ok, d'accord. Donc le matériel, c'est un sac en tissu, un beau sac en tissu qui ressemble un peu à un sac marin. Et dedans, on va trouver un certain nombre de jetons. Alors, je n'ai pas regardé la quantité, mais on a bien une petite centaine de jetons, peut-être 80 jetons. Et ces jetons sont sur le thème marin. Et effectivement, c'est des jetons double face. Et sur chaque face, on va trouver une représentation. Ça peut être une vague, ça peut être un crabe, un coquillage. On a comme ça différents jetons avec différentes fonctions. Quand je pioche un jeton, je peux déjà regarder les deux faces et décider laquelle m'intéresse le plus. De celle-là, je vais soit créer des ressources, donc les fameux crabes, coquillages, etc., que je vais mettre à disposition au centre de la table, ou je vais avoir des actions, en gros, que je vais garder vers moi. Ces actions vont me permettre d'aller chercher les jetons qui se trouvent au centre, qui ont été mis par moi et par les autres au fur et à mesure de la partie. Et comme ça, on va se tirer un peu la bourre, parce qu'on est sur un stop ou encore. C'est-à-dire que je pioche dans ce sac, et tant que c'est des ressources, elles vont au milieu, mais je continue à jouer jusqu'à ce que je décide de choisir une action. Donc j'alimente dans l'espoir de revenir choper ce que j'ai mis au milieu de la table, et puis on tire le jeton, et puis là ça me fait une action, mais je récupère pas, donc je passe à mon voisin, et c'est peut-être lui qui va profiter de ça, ou ça va peut-être faire un tour, et je vais peut-être profiter de tout ce que j'ai mis. Donc on s'est bien amusé autour de la table, on était quatre avec Lana, Cyrus et puis Fred Laloutre, hein, qui nous avait rejoint, qu'on a alpagué au hasard comme ça de son passage dans l'allée. Et donc on a joué comme ça, on n'attendait pas grand chose et en fait on a été un peu surpris de l'ambiance qui s'est mise autour de la table, parce que justement ça monte, quoi. Il y a les ressources, mieux je les veux, mais pas mes ressources, quoi. Vas-y, rajoute-en, mais c'est à moi. Et voilà, c'est comme ça. Et il y avait cette notion, je me suis à un moment presque cru dans un jeu de plis ou à taper le carton, quoi, parce qu'on prend le jeton, on le met comme ça et on échange et voilà. Et non, tu vas pas lui laisser, ne lui mets pas des ressources.
Ça discute beaucoup autour de la table. En fait. En tout cas, ça a super bien marché chez nous.
Ouais.
On a beaucoup discuté, on s'est chafouiné, il y a eu des rebondissements. C'était vraiment très, très, très drôle. Ouais.
Parce qu'on peut comme ça aussi se voler des jetons un petit peu. Et au final, on va compter le nombre de jetons que chacun a réussi à engranger jusqu'à la fin de la partie. Il y a petit gimmick où on empile tout et on garde la plus haute pile, en fait. Ouais. Alors, il y a moyen soi-même de se faire perdre des jetons si on est un peu trop gourmand ou autre. Il y a toute une mécanique qu'on va pas détailler toutes les actions, mais c'est assez rapide, c'est assez frais, ça se comprend très rapidement. Dès la première partie, on comprend tout. Et il y a cette notion d'interaction qu'on a pu avoir qui dynamise, quoi.
Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'en fait, j'avais Fred Laloute qui était à côté de moi. Il était là, des fois, il jouait comme un charretier, et puis il prenait les ressources, puis il les rejetait au milieu et tout. J'avais l'impression vraiment qu'il était à la pêche, c'est vraiment, il pêchait dans le sac. Comme s'il pêchait dans la mer, il ramassait des trucs, puis il y a des trucs qu'il veut pas, il les jette au milieu comme ça. Et je vais vraiment ce rapport avec la gestuelle et le thème, j'ai trouvé ça, mais moi ça m'a embarqué dans le jeu, alors que c'est un bête jeu avec des jetons, quoi, que tu retournes, quoi. C'est. Non, ouais, très belle découverte. En revanche, pas du tout les sensations en vrai de Captain Philippe.
Non,
comme pas du tout. Votre ami nous l'avait dit. Non.
Non, effectivement, il y a juste la notion de jeton double face, mais en termes d'ambiance, c'est pas la même chose. Captain Philippe est beaucoup plus sage et moins dynamique. On s'est posé la question parce que quand on regarde le jeu, ça fait très nature, très écologique. C'est des jetons en bois, c'est un sac en tissu, même le carton de la boîte. Hein, être dans un carton assez basique.
Ça donne l'impression de carton recyclé un peu.
Voilà, ouais. Donc on a vraiment la notion de cette notion d'écologie. On a regardé sur la boîte, on n'a pas trouvé. On a juste eu un made in China. Ah, pour l'écologie,
peut-être pas tant.
Moyen. Hein. Je suis retourné voir l'animatrice.
C'est le Canada, je rappelle.
Oui. Mais je suis retourné voir l'animatrice pour lui demander effectivement, est-ce qu'il y a une volonté ou est-ce que c'est un faux écologie, quoi, parce que ça est masqué. En fait. Ils ont voulu faire du mieux possible, le bois, le carton, le papier, tout ça est PFC. Par contre, ils ont été coincés au niveau des encres, pour avoir de l'encre comme ça qui tient sur des jetons en bois durable, parce qu'on va quand même les piocher, on secoue le sac. Et pour que ça dure dans le temps, ben, les encres sont pas écologiques. Malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout de la démarche. Mais voilà, il y avait quand même cette volonté au départ de faire quelque chose, puisque quand même s'inspire de la mer et de la nature, donc d'être le moins impactant comme ça écologiquement. Je vais vous faire la petite fiche parce que j'en ai pas parlé. Donc l'auteur, alors c'est Brian Burgoyne, je ne sais pas trop, comme peut-être un auteur canadien. Le jeu est donné pour 1 à 5. Pour des parties de 20 minutes, c'est à peu près le temps qu'on a fait. Et ça se joue avec des enfants, c'est donné 8 ans. Je pense que ça peut être même un peu moins. Mais...
Ouais, moi, j'ai joué à 2, et à 2, ça fonctionne aussi. Tu vois, vous parliez à 4. Alors, il y avait peut-être moins d'ambiance autour de la table. Mais si, on se taquinait quand même. Oh non, mais tu vas. Non, mais pique-moi pas mes crabes. Mais non, mais tu vas pas poser un oiseau là. Puis moi, j'ai pas eu de balle du tout en début de partie. Je posais que des bords de mer, donc ils font rien. Donc j'ai que des plages. J'étais Brigitte Bardot au début de ma partie sur la plage abandonnée. Il n'y avait pas de coquillages, il n'y avait pas de crustacés, rien du tout. Il y a juste la plage. Et puis à la fin, j'ai perdu, mais juste un jeton. Donc il y a quand même il peut y avoir un retournement de situation et des rebondissements. Ce qui font que c'est vraiment un jeu intéressant. Puis on se voit y jouer sur la plage, en fait, à ce jeu-là. Sur une serviette, sur la plage, pour être à fond dans le thème. Parce que, il est super agréable, ce jeu.
Et à deux, vous aviez tous les jetons ou il y avait une mise en place?
Alors, elle en avait enlevé deux grosses poignées.
D'accord. Selon l'animateur.
On est vraiment, on a eu la dame avec l'accent québécois, qui est accent charmant. Elle a pris deux, elle dit ouais à deux pour que ce soit plus dynamique. Hop, on enlève deux grosses poignées et c'est parti.
Je vous enlève 2 kilos de moules.
Exactement, mais le jeu s'y prête hein, à ce
et
côté. C'est trop bien.
On est à la crier.
On a fait un beau tour de table. Il nous reste plus tant de temps que ça, mais on va quand même essayer d'en faire un deuxième en donnant des avis un peu plus courts sur les jeux dont on veut parler.
En blitz.
Voilà. Et Cyrus, tu vas commencer avec un jeu qui demande très peu de temps, hein, bien entendu. Ouais. Empire's End.
Empire's End. C'est simple, en fait. C'est un jeu dans lequel, en fait, on a une cité et elle va se détruire au fur et à mesure. Il va y avoir des cataclysmes qui vont arriver. Et à chaque tour, le principe, en fait, le jeu reprend le fonctionnement de Non Merci. Donc, si vous avez joué à Non Merci, vous savez, vous pouvez couper là. C'est Non Merci, mais avec un peu de gestion. Voilà. Et donc, si vous aimez Non Merci, vous devriez aimer aussi Empire's End. Si vous aimez le fait de rajouter, enfin, si vous n'aimez pas le fait de rajouter des surcouches. Le truc, en fait, le principe, c'est que, il y a un cataclysme qui arrive, et chacun son tour, on va devoir poser nos ressources pour dire bah non, moi je veux pas de ce cataclysme. Par exemple, Peter il met une ressource, Benoifix il met une ressource, Elodie elle met une ressource, moi je mets une ressource, Peter met une ressource, Benoifix met une ressource, Elodie met une ressource, moi je. J'arrête. Du coup, je prends le cataclysme, donc je perds une partie de ma cité et je vais quand même récupérer les ressources que tout le monde a mis dessus. Voilà. Donc, ça c'est exactement le principe de Non Merci. Si vous n'avez jamais joué à Non Merci, jouer à Non Merci c'est très bien. Et Empire's End c'est très bien aussi. Sauf que le seul truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on se fait défoncer la tronche tout le long de la partie. On a l'impression de subir tout le long de la partie. On a un petit moteur au début. Ce moteur, il y a des trucs qui nous donnent des ressources. Voilà. Ce truc-là, il se fait détruire, du coup, avec. Mais on peut reconstruire un peu des trucs. Donc, des fois, on fait c'est pas si pire. Et à la fin de la partie, on a été assez surpris du résultat, au final, parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui stackait quand même des ressources. Tout, voilà. Voilà, mais vraiment, ce sentiment de je vais me faire défoncer la tronche, et t'es là, tu serres les fesses en fait quand ça va revenir à toi, t'espères qu'il y en a un qui va craquer avant toi, et parfois tu sais que c'est pas si grave en fait si tu te prends le truc, donc tu dis bon, peut-être je vais relancer quand même, avec un peu de chance ça reviendra encore à moi et je ramasserai encore plus. Voilà, donc c'est vraiment ce feeling là qu'on a dans Empire's End. Moi j'ai bien aimé. Même si la surcouche au-dessus de Non Merci est peut-être un poil forte à mon goût, mais je demande à y rejouer parce que je suis un peu masochiste. Donc c'était Empire's End, c'est un jeu de John DeClair qui est un mec qui arrive à faire toujours des designs assez fous, pas toujours très réussis, mais je trouve que c'est plutôt bien fait dans Empire's End. Ça, c'est édité chez Lucky Duck Games, c'est illustré par Quenchai Moria, moi j'ai vraiment trouvé ça très beau. 45 à 60 minutes, 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans.
Très bien, merci pour ce jeu. Pour les gens qui aiment se faire du mal, ça a l'air génial. Donc je vais vous parler de Courtisan, un jeu de Romaric Gallonier, Anthony Perron, illustré par Noémie Chevalier et édité chez Catch Up Game. Donc dans Courtisan, c'est un jeu où il va falloir influencer la cour du roi. Je crois que c'est ça, hein, c'est la cour du roi, tout au long de la partie, et essayer d'avoir le plus de partisans des familles importantes de la cour. Comment ça va se jouer? En gros, à son tour, on va piocher 3 cartes du deck de cartes au milieu de la table, et dans ces 3 cartes, on va devoir s'en attribuer une, en attribuer une à un autre joueur, et en mettre une au centre de la table, justement, sur la cour du roi. À quoi ça va servir de les mettre au centre de la table? Ça va être pour mettre en gros de l'influence positive ou négative sur ces 6 familles qui sont présentes. On va pouvoir en gros faire en sorte que les points de cette famille sont positifs ou sont négatifs à la fin de la partie. Et bien sûr, on va aussi en donner aux autres joueurs parce qu'il y a des cartes qui ont des petits effets néfastes pour les autres joueurs ou juste des cartes sans effet. Donc sur ces cartes-là, en fait, de ces 6 familles, on va retrouver des cartes donc qui n'ont pas d'effet, des cartes avec des boucliers, donc qui vont nous permettre de nous protéger des effets néfastes des autres joueurs. C'est des cartes qui ne pourront pas être retirées de la partie, clairement. On a des cartes qui vont compter pour 2, donc avec un petit x2. Ça va avoir une influence de 2 en plus sur ces familles. Et il me semble qu'il nous reste encore 2 cartes. Il y a les assassins qui vont pouvoir, quand on va la poser chez nous, chez un adversaire ou au centre de la table, tuer une autre carte.
Sauf celle avec un bouclier.
Donc ça peut permettre de faire changer un peu la balance, que ce soit dans les cartes des adversaires ou au centre de la table, sur les influences positives et négatives des différentes familles. Et la dernière carte,
C'est les espions.
C'est ça. Les espions, en fait, ça va être une carte qu'on va poser face cachée, que ce soit au centre, encore une fois, ou chez les adversaires, et qu'on va révéler qu'à la fin de la partie. Ces espions, quand on les pose au centre de la table, quand même, on sait juste s'ils sont positifs ou négatifs sur les différentes familles. On ne sait pas plus que ça. On ne sait pas quelle famille c'est, en fait, tout simplement. Donc, cette carte, on va la révéler en fin de partie. Et ça peut, encore une fois, faire pencher la balance. En gros, tout au long de la partie, on va cumuler en gros ces cartes-là. Chercher, nous, à avoir des cartes devant nous qui correspondent aux familles qui sont plutôt positives au centre de la table. Et envoyer chez les adversaires les cartes qui sont plutôt négatives au centre de la table, mais bien sûr cette balance va souvent changer par rapport à la carte qui va être posée. Donc C'est un jeu qui déjà est chaotique dans son approche parce que ça va beaucoup, beaucoup varier. On va s'envoyer des cartes dans la gueule, des fois qui peuvent tuer d'autres cartes, des fois qui peuvent nous bloquer, qui vont nous rapporter des points négatifs, tout simplement. Mais en plus de ça, c'est assez chaotique dans le sens où le deck de cartes, on pioche des cartes qui ont été mélangées de ces six familles. On ne sait pas du tout ce qu'on va piocher, donc vraiment, il faut faire avec les trois cartes qu'on va piocher. Selon le nombre de joueurs, en plus, on en retire du deck au début de la partie aléatoirement, donc c'est même pas calculé par rapport aux six familles qui sont présentes dans le jeu. On en retire comme ça un certain nombre. Donc, moi, je trouve ça plaisant parce que c'est un jeu où on s'envoie sur la gueule, mais par contre, ce côté trop chaotique, moi, ça me rebute vraiment. Et voilà, j'aurais aimé un peu plus de contrôle comme on peut trouver dans les jeux comme Oriflame où on peut avoir une certaine lecture du jeu de nos adversaires, une certaine lecture de notre jeu. Là, ici, tu tires des cartes, tu vas te débrouiller, tu sais à peu près combien il y en a par famille, mais en fait, tu peux pas trop le savoir parce qu'il y en a qui sont partis. Voilà, il y a du chaos, on passe pas un mauvais moment si on aime bien se taper un peu sur la gueule, mais voilà, c'est pas un jeu clairement pour tout le monde. Moi, ça m'a pas forcément plu à 100%. Par contre, l'édition, elle est, je trouve, très très belle. Au centre de la table, les familles, c'est un petit tapis qu'on vient dérouler, tissé. C'est assez magnifique. Il y a des dorures sur toutes les cartes. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, ça, là-dessus, on ne peut pas leur reprocher ça du tout. C'est Courtisan, un jeu de Romaric Gallonier, Anthony Perron, illustré par Noémie Chevalier et édité chez Catch-up Game. On va passer avec Peter qui va nous parler de Odin.
Alors Odin, c'est un jeu de cartes édité par Helvetic de Gary Kim Hop S. Wang et Johan Go, illustré par Crocotam, qui se joue de 2 à 6 pour des petites parties courtes hein, de 15 minutes pour 7 ans et plus. Donc on l'a testé, on était 4 autour de la table. Donc c'est un jeu d'escalade où on va devoir toujours monter hein, sur la carte qui est présentée au milieu de la table. On démarre avec 8 ou 9 cartes en main, je ne sais plus. Et le but du jeu, c'est d'arriver à défausser toutes ces cartes avant les autres et pas besoin de dire une eau avant de défausser la dernière. Ça, c'est un point de règle simple. Donc les cartes sont numérotées de 1 à 9. Il y a 4 couleurs de cartes, facilement émulables, mais on dit rien, on dit pas. Voilà. Comment ça marche quand on est arrivé à la carte numéro 9 ? Eh bien, pour passer au-dessus, pour faire la carte 11, par exemple, eh bien, on va mettre 2... carte de chiffre 1 et ça nous fait le nombre 11 et ces deux cartes 1 il faut qu'elles aient peu importe la couleur ça peut être 2 1 ou alors ça peut être deux cartes de valeurs différentes mais de couleurs identiques pour qu'on puisse les jouer. Donc si on veut faire par exemple 32, il faut défausser un 3 d'une couleur et un 2 de la même couleur et c'est comme ça qu'on va monter, on va monter. Et le petit twist du jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on pose une carte sur la table ou un lot de cartes sur la table, on va devoir reprendre une carte du lot précédent. Donc quand on est sur une carte, on pose une carte et on reprend la carte qui était disponible au centre de la table. Et puis, si on pose 3 cartes par-dessus un lot de 2, on reprend qu'une seule carte du lot de 2 qu'il y avait sur la table et on défausse la carte qui restait. C'est comme ça, en montant, qu'on va réussir à se défausser de ces cartes qu'on a en main. Voilà, c'était Odin chez Helvetic de Gary Kim, Hop S. Wang et Yuan Go.
T'en as pensé quoi ?
Qu'est-ce que j'en ai pensé, moi ? Moi, j'ai trouvé ça plaisant. J'ai trouvé que c'était un bon petit jeu et que... Ça tournait bien et que ouais c'est des parties rapides, ça marche bien.
Et alors vous le voyez pas, mais derrière nous il y avait Noifix qui fait tout un trafic avec des chaises. Parce qu'on nous a volé des chaises sur le stand.
Du coup j'en avais emprunté un stand où je suis allé la rendre et où m'ont dit en fait j'ai retrouvé deux chaises là-bas, c'est des gens qui ont dû bouffer, qui ont dû les placer là-bas, donc garde-la et va récupérer la deuxième qui est là-bas.
Voilà, vous avez toutes les coulisses.
Pardon.
En direct, c'est vraiment du journaliste d'investigation.
Ouais. Alors on peut quand même souligner que Peter est en train de se spécialiser en jeu de cartes à divinité nordique. Hein,
ouais. Moi j'ai pas trouvé ça dingue, hein, franchement. Dingue. J'ai trouvé que ça n'apportait rien.
Il y a une petite nouveauté, le fait de récupérer une carte au milieu qui est maligne, mais voilà.
Ouais, bah en fait il se passe rien autour de la table, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas.
D'accord, ok. Oh bah Odin, un jeu qui plaît pas à tout le monde, hein, apparemment. Et on va passer à Benoît FX qui va nous parler de The Number.
Ouais, Alors, j'ai pas fait exprès quand j'ai choisi les jeux desquels je voulais parler, je voulais vous parler aujourd'hui. Et en faisant les petites fiches, je me suis rendu compte que c'était un autre jeu de Hisashi Hayashi, même que Bomb Buster du coup. Et puis, bon, finalement, j'aime bien ces jeux hein, parce qu'il avait fait Metro X aussi que j'avais bien aimé. C'est l'auteur de Train aussi, le deck building. Enfin, il fait des trucs assez variés. Et The Number, c'est un jeu qui est assez intéressant, qui se joue très rapidement, qui est super malin, je trouve. Et en gros, chaque joueur, chaque joueuse va devoir écrire un nombre avec trois chiffres. Ça peut être n'importe quel chiffre, mais vous allez voir qu'il y a quand même de la stratégie derrière. On va poser les nombres sur la table et on va les classer du plus grand au plus petit. On va regarder le plus grand, et si dans ceux qui sont plus petits que lui, il y a des chiffres en commun, par exemple, j'ai le plus grand a écrit 898, et il y a d'autres nombres en dessous où il y a des 8 ou des 9 dedans, bah, ce nombre ne va pas compter, on va pas le score, il va pas scorer ce tour-ci. Et on va regarder comme ça, l'un après l'autre, si les nombres qui sont les plus hauts ont des chiffres en commun avec les plus petits. S'il n'y en a pas, ben, ce sera scoré. S'il y en a, il est retourné, il ne score pas. Quand on va faire ça pour tout le monde, quand on va scorer en points le chiffre de la centaine, qui peut être bonifié si on est celui qui a la centaine la plus haute. Et donc, il y a un truc de, si je mets des chiffres très hauts, en fait, je prends un risque parce que j'ai de fortes chances que dans tous ceux qui sont plus petits, il y ait des chiffres en commun et donc que je ne score pas. Mais si je mets des petits chiffres, bah, je ne vais pas le comparer forcément avec les autres parce qu'il n'y a personne en dessous de moi. Mais par contre, je vais scorer très peu de points. Donc, il y a un côté un peu prise de risque, bluff comme ça. Et en plus, quand on va scorer un nombre, tous les chiffres qui le composent, je vais les barrer sur mon petit plateau et je n'aurai plus le droit de les réutiliser pour les manches suivantes. Donc il va commencer à avoir aussi une petite observation de quel chiffre il reste, est-ce que je vais réussir à placer tel ou tel chiffre. On va beaucoup jouer des chiffres avec des nombres avec que le même chiffre ou avec pas trop, généralement on joue pas trois chiffres différents dans le nombre parce que voilà, ça augmente le risque qu'il y en ait des communs, etc. Et donc il y a un truc assez malin comme ça qui va se créer, et de manche en manche on va un peu s'observer. On fait, je crois, 4 ou 5 tours, et on fait ça deux fois. 4 ou 5 tours où on va mettre des chiffres, et on fait ça deux fois, deux manches du coup, et on va accumuler la somme sur les deux tours. C'est tout bête, mais j'ai trouvé ça super malin. Et vraiment, j'ai vraiment bien aimé ma partie et j'ai envie d'en refaire une.
Mais dis-moi, BenoFX, ça sort quand ce magnifique jeu ?
Eh ben, c'est là où, en fait, j'ai pas fait gaffe non plus, mais le jeu est sorti au printemps dernier, je crois. Donc ça fait déjà un moment qu'il est sorti, mais vraiment un soul buzz pour moi. J'en avais pas entendu parler. C'est un petit jeu, hein, voilà, ça paye pas de mine comme ça. The Number, en plus, le nom, ça fait assez générique, machin, mais la mécanique est vraiment maligne.
Ouais, moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel dans le principe. Sauf qu'en fait, j'ai pas réussi à passer le stade de faire plus de deux parties, en fait, tu vois. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est hyper malin, c'est une espèce de... Oh putain, mais c'est sorti d'où cette idée, ouais, c'est dingue. Ouais. Mais en fait, j'arrive pas à aller plus loin que deux, trois parties que j'ai faites. Et...
Ok. Ouais. J'en avais fait qu'une et j'avais que la sensation de BenoFX, j'ai le petit sourire en coin à chaque fois que tu vas mettre des chiffres parce que t'as vraiment un aspect bluff, ouais, et lecture des autres que j'avais bien aimé, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ouais, ça s'épuise un peu, peut-être, c'est possible.
Ouais, en tout cas, ça a été une bonne découverte. On va voir si effectivement, si j'en refais des parties, si ça tient sur la durée, si l'intérêt tient sur la durée. Mais ça va tellement vite et c'est tellement, voilà, il y a tellement un petit côté, un peu double guessing. Qu'est-ce que va faire l'autre? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je risque ou pas? Est-ce que je tente? Est-ce que je joue sécurité? Donc, je sais pas, ça m'a beaucoup plu. Et donc, la petite fiche signalétique. Donc, The Number, un jeu de Hisashi Hayashi, illustré par Ryo Niyamo. C'est édité par RepoProd, c'est pour 3 à 5 joueurs et à partir de 8 ans.
Après, moi, je trouve pas ça déconnant que des éditeurs ils remettent des jeux de l'année dernière ou même de plus vieux.
On a
tout l'espace Asmodée où il y a les Aventuriers du Rail, il y a des jeux assez qui ont plusieurs années. Et je trouve ça au contraire sympa parce que ça permet de pouvoir boucher des trous dans notre culture ludique.
Totalement.
Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis ça contre un petit peu la course à l'échalote tout le temps de la nouveauté, qui est quand même une hérésie écologique. En plus, pour sortir des jeux qui sont mof, redonner envie de jouer à des jeux qui étaient plutôt bien.
Et je pense que du coup, c'est un jeu auquel l'éditeur croit et qu'il a envie d'installer. S'il le ressort, même si c'est sorti il y a longtemps, il pense que voilà, c'est quelque chose qui est intéressant pour les gens. Et... et pas juste la dernière sortie qu'il faut mettre en avant, quoi.
Tout à fait. Saluons les éditeurs qui croient en leur jeu.
Eh ben, merci à eux. Et on va passer justement tout de suite à Elodie qui va nous parler des architectes d'Amitis.
C'est ça, un jeu Morph. Donc les architectes d'Amitis, c'est à la boîte de jeu, un jeu de Jérémy Ducret et Romaric Galonnier, et illustré pardon, par Agnès Ripoche. Jeu à deux encore. Alors voilà, toi Benofix, tu as joué à des jeux d'un même auteur. Moi, j'ai joué à beaucoup de jeux à deux aujourd'hui. Bon, il y a le roi machin qui veut faire un palais pour sa femme Amitis. Bon, Amitis, elle pourrait elle-même embaucher les architectes. Hein. En fait, c'est un jeu assez quelconque. On va aller récupérer des jetons, poser son meeple sur un plateau central, aller récupérer des tuiles pour aller faire son petit machin dans son coin. Il y a zéro interaction, à part peut-être regarder et bloquer l'autre, mais il y a 9 tuiles en jeu, donc on a de quoi récupérer des trucs. On l'a déjà vu plein de fois. Niveau édition, les illustrations sont plutôt jolies, mais elles se ressemblent beaucoup, donc on a du mal à différencier les différents bâtiments, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Ben voilà, c'est vraiment pas un jeu qui... Ben, il aurait pu ne pas être fait, quoi, ce jeu-là. Il n'est pas mauvais, mais on l'a déjà vu plein de fois. Et ben, innovons un peu. Et ensuite, un petit... sur le... bon, ça, c'est vraiment sur le ressenti de jeu. Et sur la... C'est un jeu à deux, donc on était positionnés côte à côte et non pas face à face.
Oui, c'est ce que j'ai vu sur le stand en passant. Ils sont tous côte à côte, les joueurs.
C'est ça. C'est marrant, et donc, tu es face... aux visiteurs qui passent au milieu de l'allée, t'as l'impression d'être en vitrine. Les gens, ils te regardent en train de jouer. C'est hyper désagréable. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous mettez les joueurs sur votre stand vraiment pas dans une position agréable parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une vitrine. C'est
comme c'est quand tu vas dans un resto, on t'installe près de la fenêtre, quoi.
C'est ça, face à la fenêtre.
Y a des gens,
bah, c'est ça.
Dans le resto.
Oui, mais là, on serait face à face. Enfin, l'autre fait une sorte de bouclier entre toi et les gens qui regardent. Là, pas du tout. Et franchement, avec mon ami, on était vraiment pas à l'aise. Voilà. Okay. Donc, je refais un petit coup l'affiche. C'est les architectes d'Amitis de la boîte de jeu. Jérémy Ducret et Romaric Galonnier pour les auteurs. Agnès Ripoche pour l'illustration.
Et bien, pour cette expérience de joueur, pas forcément des plus agréables, on va passer maintenant à Lana qui va nous parler de Little Tavern.
Little Tavern, c'est un jeu chez Repoprod, plutôt un petit jeu familial d'ambiance. Nous, on y a joué à 5 joueurs, avec des joueurs qu'on ne connaissait pas forcément. Ça peut jouer un peu. C'est un jeu assez classique, un jeu de cartes à placer, soit chez soi, à sa taverne, soit dans la taverne de ses voisins. Et en fait, il faut avoir placé jusqu'à 4 cartes pour que la manche s'arrête. Ça va jouer en plusieurs manches. On va placer des personnages qui vont scorer de façon différente. C'est plutôt classique. Il y a des persos qui doivent être tout seuls de leur faction à la table, d'autres qui doivent être en paire, d'autres qui rapportent des points en direct, etc., etc. Vraiment classique. Il y a pour agrémenter quand même quelques événements un peu spécifiques qui vont être piochés au hasard. Des événements qui permettent soit de changer des cartes de sa table, soit d'en échanger, soit d'en refiler aux voisins. Voilà, c'est sympa, la phase de découverte est rigolote, il y a des noms sympas sur les cartes, mais je pense que passer la découverte, c'est un jeu qui apporte pas de petit plus aux propositions ludiques. On passe un bon moment, mais il n'y a pas d'innovation. Voilà, c'est pas un jeu que je recommande, parce qu'il apporte pas ce petit plus que j'attends aujourd'hui.
Ouais, je suis assez d'accord sur le fait que je suis pas sûr qu'il y ait un gros renouvellement dans le jeu et qu'on doit s'en lasser assez vite. Ouais, j'ai fait une partie et nous, on a placé un plutôt bon moment à table. C'est un jeu, je pense, un peu d'interaction, un peu potache, où on va se refiler des cartes, s'échanger, faire des trucs. On a bien rigolé, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je suis pas sûr que ça se renouvelle beaucoup et qu'au bout de passer les 4-5 premières parties, on ait vraiment envie de le ressortir, quoi.
Oui, moi je vous rejoins aussi. Après, j'ai envie de découvrir quand même quels sont les autres événements, les autres cartes événements, parce qu'à chaque fois, c'était assez plein de surprises, quoi. Et ça pouvait complètement rebattre le jeu, ou renverser la table, quoi.
Ah bah nous, premier tour, première manche, on a utilisé toutes les cartes événements. Ah ouais, non, on était des consommateurs de cartes événements à chaque fois.
Donc c'était le jeu Little Tavern chez Repoprod, un jeu de 3 à 5 joueurs de Théo Rivière et Maxime Rambourg.
Oh, une pièce dans le pot.
Un tipeur vient de nous mettre une petite pièce dans le pot, merci.
Tu veux une standing ovation?
Et nous remercions Cal Hervé pour son don en direct.
Bon, merci Lana. Et on va finir ce tour de table avec Drew qui va nous parler d'harmonie.
Oui, même harmonise, parce qu'il y a S à la fin si vous cherchez le jeu dans vos différentes applis. Donc harmonise, c'est chez Libellude, c'est un jeu de Johan Benvenuto, illustré par Maeva da Silva, donc de très belles illustrations. On sent que nous sommes dans la maison d'édition qui fait du Dixit. Mais ce n'est pas un jeu à base d'images en soi. C'est un jeu où on va avoir, allez, si on essaye de le catégoriser, un mix entre un Nazul et un Cascadia, voilà. Puisqu'en fait, à son tour de jeu, on va venir chercher au centre de la table, comme ça, une série de 3 jetons parmi 5 séries qui sont disponibles. Donc on reconnaît un petit peu là le côté Azul. Et ces jetons sont des jetons de couleur. Alors nous sommes en train de faire notre petite nature sur notre plateau individuel. Et donc ces jetons vont permettre de faire pousser des arbres, de planter des champs, de faire avancer une rivière comme ça sur ce plateau. Et donc tout ceci pour constituer un paysage. Chaque jeton, vous le voyez venir, vont scorer d'une manière différente. Les arbres vont pousser en hauteur. Donc la rivière va vouloir être continue. Les maisons vont rapporter des points si elles sont entourées de différentes variétés d'autres éléments. Et voilà, comme ceci, donc on pourrait se contenter de ça et essayer de faire le plus beau plateau et marquer des points. Mais à son tour de jeu, une fois que j'ai pris mes 3 jetons et que je les ai posés, je vais pouvoir venir chercher des animaux à venir loger dans mon plateau. Ces animaux, donc, ce sont des cartes. Et sur ces cartes, je vais avoir des contraintes, des motifs. Dès que je vais faire ce motif sur mon plateau, je vais pouvoir mettre un petit cube qui représente l'animal sur ce motif. Chaque carte comporte plus ou moins d'animaux, et plus je vais mettre d'animaux, plus je vais marquer de points. Donc on va faire ceci jusqu'à ce que le plateau se remplisse, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons dans le grand sac de jetons qui permet de regarnir le centre de table, et on va faire le décompte des points à la fin. Donc c'est très mignon, c'est très beau, on voit que c'était travaillé. Est-ce que c'est original? Je ne sais pas. Comme je disais, je dis un mix d'Azul et Cascadia parce qu'on retrouve les contraintes de scoring de Cascadia dans les différents animaux qui vont nous permettre, comme ça, selon les motifs, de marquer du point. Et on retrouve la notion d'Azul pour aller piocher des éléments et les poser sur son plateau.
Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, la toute petite originalité que je lui trouve quand même, c'est que tu peux comboter des trucs. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des combinaisons, des agencements en fait, qui peuvent s'entendre avec d'autres. Donc en gros, comme si des animaux pouvaient être peut-être en harmonie avec d'autres. Je sais pas, si, j'ai pas vraiment vérifié si c'était logique ou pas. Mais en tout cas, moi j'ai eu une partie assez plaisante parce que j'ai réussi à combiner des trucs, à les faire fonctionner ensemble et du coup à comboter quoi.
Et on a aussi cette petite contrainte où les animaux vont apporter des points, mais bien souvent, quand on regarde les motifs demandés par les animaux, ça va être des motifs inverses de ce qui rapporte naturellement des points sur les constructions de base. C'est-à-dire qu'un arbre, pour qu'il rapporte beaucoup, on va me demander de faire un arbre de 3 étages. Sauf que moi, j'avais un sanglier. Le sanglier, il allait dans une végétation qui était très basse, donc qui allait m'empêcher de construire en hauteur. Donc, il y a toute ça, cette dichotomie où est-ce que je prends une carte qui peut m'apporter des points ou est-ce que je construis quelque chose qui fait des points nativement sur mon plateau. Donc, voilà, à chaque coup, on se pose la petite question et prendre une carte animale. Donc, on peut en avoir jusqu'à 4 en même temps, sachant que quand une carte est terminée, elle est défaussée, donc on peut remonter à 4 cartes. Donc, prendre une carte animale, c'est engageant, c'est bloquant. Est-ce que je vais la faire? Est-ce que je privilégie? Voilà, il y a ces petites questions qui se posent. Et les cartes sont très belles, mais l'illustration ne sert à rien dans ce jeu. À un moment, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, mais on peut les utiliser dans Dixit aussi.
De loin, j'avais cru que c'était un jeu Dixit-like. J'ai quand même un petit coup de gueule, c'est qu'effectivement, le jeu est sur le thème de la nature, le matériel est très joli et assez naturel, tu vois, il y a cette idée-là, sauf les putains de cubes en plastoc qui représentent les animaux, quoi. Ils pouvaient pas faire des cubes en bois, sérieusement. Mais enfin, non, mais moi je suis désolé, mais je comprends pas. En fait, je comprends vraiment pas ce choix. C'est complètement bizarre.
Non, oui, c'est vrai que le sac de toile, les jetons bois, tout est carton, tout aurait pu être nature, écologique, et on a ces cubes qui jurent même un peu parce qu'ils sont translucides, ils sont très techniques, alors que ça représente des animaux et la nature, effectivement.
Ouais, moi c'est ma déception de la journée. Hein. Parce que j'en attendais beaucoup de ce jeu-là et. Oh. Je me suis ennuyée, mais vraiment. Hein. Parce que j'ai pas trouvé la patte de Libellude. Cette espèce de truc dans leur jeu qui est un peu innovant, un peu... Là,
Non, bah ouais, là, on l'a déjà vu. Ça n'a rien à voir avec le reste de leur prod.
Bah oui. Mais pourquoi ils font ce jeu-là?
Après, c'est complètement le style de jeu à la mode, hein, effectivement.
On est en train de nous éteindre la lumière. Hein. Messieurs, dames, on va bientôt finir l'émission.
On va faire la conclusion, on va se faire couper le courant.
Va finir.
Allez, on va y aller.
Donc, c'était Harmonize chez Libellude, un jeu de Johan Benvenuto, illustré par Maeva da Silva, de 1 à 4 joueurs et à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 45 minutes.
Eh ben, merci beaucoup, Drew. Merci à tous et à toutes, hein, clairement. On va conclure, je pense, parce qu'effectivement, on n'a plus de lumière, on a des chaises en moins, en plus, je ne sais pas, j'ai pas tout compris. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet de l'émission. Partagez ce débrief si vous êtes à Cannes, venez à notre rencontre sur le stand 0418. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve demain pour le débrief du jour 2, ouvert au public de ce FIGE 2024. Et d'ici là,
jouez bien!